Voilà, donc ben, bonjour à tous. Je ne sais pas si je parle dans le micro. Si vous voulez. Donc là, une rencontre particulière, comme vient de dire Anne. L'argument, c'est Anton Torvast, qui est le personnage principal d'Alain Mascaro, et dans les plaines kirghizes. Et Carmen, qui est née en Argentine, aurait pu vivre heureux tous les deux parmi les leurs. Mais le monde et les secousses tragiques ont choisi de faire autrement et ont fait bouger leur trajectoire. Donc, on va commencer par une petite lecture.
Je vais exposer la trame du livre de Johanna Crafie qui s'appelle Avant elle. Donc, le livre pose sur la découverte de la vérité sur sa famille immigrée d'Argentine lors de la dictature de Videla. Et c'est bien expliqué dans la quatrième de couverture, donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Carmen est enseignante, spécialiste de l'Amérique latine. Une évidence pour cette fille de réfugié argentin, confrontée au silence de son père, mort en emportant avec lui le fragile équilibre qu'elle s'était construit. Elle la laissant seule avec ses fantômes. Un matin, Carmen est contactée par une entreprise de garde-meubles. Elle apprend que son père y louait un box. Sur place, un bureau et une petite clé. Intriguée, elle se met à fouiller et découvre des photographies, des lettres, des coupures de presse et sept carnets, des journaux intimes.
Et pour Alain Mascaro, donc, c'est avant que le monde ne se ferme, et décrit Anton Torvald, qui est Tzigane, né un peu après la Première Guerre mondiale. Ce fils du vent, comme il est appelé, ce fils du vent va traverser la première moitié du siècle des génocides, et devenant témoin et mémoire de la force d'un peuple libre, le peuple Tzigane, qui a subi et qui essaye de se reconstruire, et qui arrive d'ailleurs après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale. À la fois épopée et récit intime, avant que le monde ne se ferme, est le premier roman à l'écriture ample et poétique, et c'est vrai, c'est vraiment plein de poésie. Alain Mascaro s'empare du folklore et de la sagesse tzigane pour mieux mettre à nu la barbarie du monde. Alors, ce qui nous a. Enfin, donc, vos deux livres sont très éloignés l'un de l'autre, comme on vient de voir, mais juste pour les situer, on voudrait se demander ce qui a fait votre choix. Pourquoi vous avez choisi Lady Gan? Pourquoi tu as choisi l'Argentine?
Bon, c'est comme ce matin, c'est moi qui commence. Bon, alors, d'accord. Allons-y. C'est en fait une longue histoire qui commence dans l'enfance. Vers 5-6 ans, j'habite au bord d'une nationale et passe à peu près deux fois l'an des convois de tziganes, des rouleaux tirés par les chevaux encore à l'époque, avec les enfants qui marchent à côté, qui ne vont pas trop à l'école, moi j'y vais. Et quand ils y vont, tout ce qui nous est interdit leur est autorisé. Donc j'envie cette liberté. Un petit peu, à peu près au même moment. Je subis, je ne vois pas d'autre mot, des cures pour soigner mon asthme. Et les seules bouffées d'air pour moi, c'est me lever l'après-midi pendant la sieste pour observer des chevaux qui paissent dans la prairie sous les fenêtres de la maison d'enfants. Et la seule distraction aussi, c'est une fois par semaine, le mercredi soir, la piste aux étoiles. Et donc, de ces trois strates, va naître, je crois, une sorte de monde un peu fantasmagorique autour des tziganes qui associe le cirque, donc les gens du voyage et les chevaux. Voilà. Et un petit peu plus tard, mais j'y reviendrai, je pense, j'ai aussi enseigné à des enfants du voyage en classe de sixième, ce qui m'a permis d'entrer, pas dans leur intimité, parce qu'on n'y entre pas, mais au moins de connaître le mode de fonctionnement d'un camp, le système hiérarchique assez complexe dans les tribus et les compagnies, et de recueillir aussi quelques contes oraux. et quelques histoires qu'on se transmet à la veillée, même si aujourd'hui c'est en voie de disparition. Voilà. Et donc, parler d'eux, c'était en quelque sorte aussi rendre justice à un peuple qui vit dans la marge de la marge, si possible plus loin de nous, de manière à mettre entre eux et nous une distance raisonnable qui permet de, oui, de les tenir à distance sans chercher vraiment à comprendre ni à savoir qui ils sont. Donc ils sont victimes de préjugés et l'histoire les a assez peu, enfin les a maltraités, ou carrément les historiens n'ont absolument pas traité le sujet pendant un certain temps. Donc c'était parler d'eux, c'était une façon d'exhumer cette part fantasmagorique qui venait de mon enfance et en même temps de rendre justice à ce peuple dont on parle peu.
Les fils du vent.
Et alors, avant elle, oula, j'étais surprise que c'est très très fort, je vais le mettre un peu plus loin. Il y a deux points de départ à ce récit. Le premier, il est très intime. Mes grands-parents ont survécu à la Shoah, donc j'ai longtemps été habitée par les non-dits, par de la souffrance palpable, par des mystères que j'avais envie de percer. Donc c'est le premier point de départ. Et le deuxième, c'est la plongée dans l'histoire de l'Argentine, et notamment de la dictature pendant mes études, et la découverte donc de l'internement des femmes enceintes, des enfants volés, etc. Et donc cette double sidération a fait que j'ai voulu écrire cette histoire. Et ensuite, il y a eu une première fausse croyance, c'est-à-dire que j'étais persuadée que je voulais raconter l'histoire d'un enfant volé. Et en allant rencontrer un psychiatre argentin, enfin, le hasard a fait qu'il était psychiatre, moi je venais à sa rencontre surtout pour échanger sur son histoire. Donc je me suis retrouvée, pardon Alain pour le doublon avec ce matin, dans son cabinet, dans la position du patient, donc en lui posant plein de questions sur mon projet. Et à l'issue de l'échange, comme un psychiatre envers son patient, il me dit « mais en fait ce qui vous intéresse ce n'est pas l'enfant volé, c'est le bourreau ». Et là, voilà, ça a éclairé en fait toute ma démarche. Il a vraiment eu le rôle d'un dramaturge premier. Donc je le remercie pour ça. Et c'est comme ça que l'histoire s'est précisée. Et donc que je me suis centrée sur le personnage d'Ernesto via Carmen. Voilà. Ouais.
Donc on va vous lire des passages là. Donc Alain Mascaro. Tout commença dans la steppe, dans le cercle des regards qui crépitaient avec le feu de camp. La voix du violon de Jacques planait au-dessus l'hiver immobile qui parfois arrêtait le cœur des hommes. Ainsi, le vieux Johann était-il mort 3 jours plus tôt ? Jamais il ne connaîtrait l'enfant à venir. Ce jour-là, le jour où son père s'en est allé, Zvetan avait appris que lui-même allait devenir père. Une vie pour une vie. Tel était le tribut à payer depuis toujours. Dès qu'une âme s'envolait, une autre se posait dans le creuset d'une mer, sous l'orbe d'un ventre rond comme un monde. C'était si étrange de connaître la douleur, la tristesse et la joie en même temps. On avait brûlé la roulotte de Johann, son bandoneon et son masque de clown triste, pour que jamais ils ne reviennent hanter les vivants.
Je me prépare en 15 minutes, malgré l'alcool de la veille, qui œuvre encore à me donner la nausée. Enseignante appliquée, je me dépêche pour ne pas arriver en retard et courir désespérée après le temps perdu. À 8 heures, le pas fébrile, j'effectue mon premier changement à Châtelet et me poche sur le quai de la ligne 7 en direction de Villejuif. Je patiente, embrumée, j'entends le métro arriver. Je tourne la tête et j'en découvre un œuf où il y aura la climatisation et où je ne serai pas trop au chaud, un métro qui sera bondé sans me donner le vertige. Un homme approche de moi par la droite, jeune, bien habillé, cravate bleue et chemise blanche sous un costume gris. Il avance, comme tout le monde, le long des flèches jaunes pour attendre que le métro soit à quai. Derrière sa grouille, lui, il ne fait plus comme tout le monde. Il ne s'arrête pas. Il sort du lot et marche jusqu'au rebord du quai, jusque sur les rails, sous le métro qui le fauche dans un crissement de frein. Les voyageurs s'enfuient horrifiés. Je vois les visages pétris d'effroi. L'accident voyageur, en vrai, en chair, en sang. Mon cœur s'accélère, mon souffle se coupe. Je dois sortir.
Alors, voilà, c'est les premières pages de vos deux livres. Il y a quand même tout de suite un point commun. Ça débute par la mort. C'était un besoin narratif. C'était quelque chose qui vous... dont vous sentiez la nécessité. Je vous surprends.
Alors, la réponse consciente, parce que je pense qu'il y a de l'inconscient là-dedans, la réponse consciente est que je voulais qu'il y ait un déclencheur très fort pour Carmen. Donc là, peut-être c'est la casquette de scénariste qui parle et qui pense incident déclencheur, qu'est-ce que je peux trouver pour bien planter mon personnage. Donc voilà, au départ c'était ça l'idée, et ensuite oui, je pense qu'inconsciemment ce personnage de Carmen passe de l'ombre à la lumière, donc finalement pour qu'on ait voilà, cet arc qui se déploie, c'était finalement assez juste de commencer par la mort, sachant que le suicide fait aussi écho au suicide de sa mère qu'on découvre ensuite dans le livre, donc ça plantait différentes résonances en fait. Voilà.
Oui, c'était une nécessité narrative en fait.
Oui, mais qui s'est donc opérée de manière très inconsciente, parce que par exemple l'écho du suicide, c'est un lecteur qui m'a fait cette remarque et moi je m'en étais même pas rendu compte. Donc voilà, tout ça travaille aussi de manière inconsciente. Voilà, inconsciente.
Alors, en ce qui me concerne, là, on va toucher carrément à l'intime, en fait, puisque l'histoire que je raconte dans les premières pages, c'est mon histoire, en fait. J'ai appris que j'allais être père le jour où mon père est mort. Et écrire cette première page, ça a été pour moi une façon de lui rendre hommage. Il y a une sorte de transmission qui fait que, pour moi, le deuil n'a pas été si difficile que ça à vivre, parce que quelqu'un a disparu. Et on m'annonçait la venue d'un nouvel être sur Terre. Donc ça a permis au deuil de se faire de manière plus... Je ne sais pas en fait quel adjectif employer. Enfin, le deuil s'est fait sans... Il a été en fait transfiguré par cette annonce d'une naissance. Voilà. Donc le roman se commence ainsi et en fait s'achève ainsi. Parce que je crois qu'entre la vie et la mort, il y a un flux permanent. Et que la vie naît finalement de ce qui meurt.
Oui, j'avais noté, tu le dis quelque part, ça, que la vie est... Bon, de toute façon, c'est d'un commun total, quoi. La vie, la mort sont...
Bien sûr. C'est le lot commun.
Ouais. Alors, il y a un passage, là. Jacques fit son baluchon et est parti. En guise d'adieu, il improvisa une sorte de discours. « Ce monde-là n'est plus pour moi, » dit-il, d'un air las. Autrefois, avant la Grande Guerre, la terre était libre et ouverte. On voyageait d'une mer à l'autre sans rien demander à personne, et personne ne vous demandait jamais rien. On comprenait qu'on avait passé une frontière quand, soudain, on n'entendait plus parler la même langue. Alors moi, j'ai voyagé de Madrid à Jaipur sans passeport, ni papier, sans remplir le moindre de ces carnets et formulaires qu'on exige aujourd'hui pour un oui, pour un non. Je ne suis pas simplement un vieil homme qui regrette le monde d'hier, je sais fort bien ce que valait le monde d'hier, pas mieux, non, je préfère ne pas savoir ce de quoi sera fait demain, ici. Le vieux Johan avait raison, ce monde-là tourne comme un manège qui s'en va vers le pire.
Je vais chercher la photographie de maman et toi posée sur le bar pour prolonger le souvenir. Mais un frisson électrique me traverse de la tête aux pieds. Je marche jusqu'à la salle de bain, puis la chambre, avise la planche qui me fait office de bureau. Accrochée au mur, ma to-do list me nargue, mon séminaire sur l'État en Amérique latine, mon HDR, habilitation à diriger des recherches, et le portrait de toi que j'ai promis d'écrire pour te rendre hommage. Je retourne au salon en pensant tout haut. Le portrait. Je suis invitée dans la prochaine émission de Jeanne, mon amie qui travaille à France Culture, pour une émission spéciale consacrée aux survivants. Tu aurais été touchée de cette reconnaissance enfin venue, n'est-ce pas? Je dois livrer mon texte dans 2 jours et je ne pensais pas qu'il me serait aussi difficile de parler de toi. À chaque fois, le phénomène se répète. J'allume l'ordinateur et les souvenirs me prennent à la gorge, du lierre foisonnant, comme cette fois où tu as sermonné sèchement un camarade de classe en pleine rue parce qu'il avait osé me siffler. J'avais eu honte en rentrant à la maison, terriblement honte. Au dîner, face à mon silence, tu avais tenté de t'expliquer. Les catastrophes n'arrivent jamais d'un coup. Elles sont fourbes et se faufilent à petits pas.
Voilà, dans cette dernière phrase, il y a la question qu'on va vous poser.
C'était cette dernière phrase prononcée par le père. Je me demandais si, en fait, on pouvait sentir venir les catastrophes. Est-ce qu'il y a des signes comme ça, ou alors on les a plus tard, les signes, une fois que c'est arrivé?
Est-ce qu'on ressent les catastrophes? Est-ce qu'on les sent arriver? Est-ce que vous pensez qu'on les sent arriver? La dernière, du 24 février, on n'était pas sûr qu'elle arriverait, mais elle est arrivée. Est-ce que le changement écologique va... À vous la parole.
Bon, alors, est-ce que l'on sent les catastrophes? Je crois que oui, en fait. On a tous plus ou moins l'intuition de l'imminence de la chute. On sent, je crois. Et il y a eu tout un tas, avant la Seconde Guerre mondiale, les indices étaient flagrants, il y en avait une kyrielle. Et pour les tziganes, pour parler d'eux, ce qu'ils ont constaté, c'est une altération des comportements, en fait. Notamment ceux qui étaient en URSS, ils ont assisté à la construction des fermes collectives, ils ont assisté aux famines forcées que Staline avait mis en place dans certains endroits. Donc il y avait des signes. Après, j'ai prêté aussi à mes tziganes une sorte de don de double vue, puisque le personnage de Svetan, qui est le personnage du père, a chuté enfant et s'est ouvert à une sorte de troisième œil contre l'arrêt de vivre d'une pierre, et depuis il voit. Il voit comme son père voyait, sauf que son père était essentiellement un prophète de malheur qui avait prédit l'arrivée des bourreaux. Mais je crois que rétrospectivement, c'est assez facile de trouver des indices, mais peut-être quand on a le nez dedans, c'est beaucoup plus délicat de prévoir les catastrophes, sinon elles n'arriveraient pas, en fait, hein, si vraiment on était capable de les anticiper. Mais je crois qu'on a quand même un sentiment de malaise quand quelque chose ne va pas. Et là, il me semble que nous l'avons. Ce sentiment de malaise, pas uniquement, je ne parle pas uniquement de l'actualité immédiate, mais simplement l'état du monde de manière confuse. Parfois, on sent que quelque chose ne va pas, simplement on ne sait pas quoi faire pour enrayer cet engrenage qui va nous broyer au final, je pense. Ce n'est pas très gai.
Non, je ne pense pas. On s'en sortira.
Oui, je vais pas m'étendre trop sur ce sujet, histoire de ne pas trop plomber l'atmosphère, mais j'ai l'impression en tout cas que notre difficulté est celle de penser le temps de la catastrophe. On a essayé, et c'est très, très difficile à la fois d'être vigilant aux signaux et en même temps de se mettre dans un état d'esprit, être en mesure de penser l'impensable. C'est presque schizophrénique, en fait, comme attitude. Donc... voilà, j'aimerais qu'on puisse être en mesure de penser quotidiennement ce temps de la catastrophe, mais comment faire pour vivre au quotidien tout en pensant ce temps-là? Ça me semble extrêmement, extrêmement compliqué. Donc, on peut effectivement interroger notre capacité à voir, notre capacité à être vigilant, à ne pas se mettre des œillères, notre capacité à s'engager. Voilà, mais bon, bref.
C'est-à-dire, on en a le sentiment, Hein, comme tu disais Alain à l'instant. Mais justement, comme tu viens de dire, Joannelle, c'est le tout, c'est de savoir si on peut, si on arrive, si on, c'est possible de s'engager pour que les choses n'adviennent pas.
Avec une énorme inconnue qui est un point moi, qui me terrifie à certains moments, c'est qu'on peut débattre, on peut émettre des opinions et en réalité, en conditions extrêmes, qui sait ce qu'il ferait ? Je pense que personne n'a la réponse et donc voilà.
Je pense qu'il ne faut pas aussi sous-estimer la capacité qu'ont les hommes à se mentir. Voilà, donc à se raconter des histoires qui vont embellir une réalité par ailleurs sombre. Donc oui, Johanna a parlé de hier, c'est même parfois carrément un masque hein, qu'on porte, mais sur le pas sur le bas du visage, sur les yeux.
Mais pour rester positif, je citerai Alain Mascaro ce matin lorsque nous parlions de la banalité du mal et qui disait « Mais il faut aussi penser la capacité de l'homme à faire le bien ». Donc concluons cette question sur la catastrophe par la capacité de l'humain à faire le bien. Ça sera pas mal.
Oui, c'est vrai. Ça sera peut-être la fin de, tout à l'heure. Alors, attends que je ne me perde pas. Je l'ai rencontré pour la première fois il y a bien longtemps, raconte Ajag. C'était en novembre 1913, à Johannesburg, en prison. Oui, mon garçon, je suis allé en prison, en Afrique du Sud, qui plus est. Tout homme normalement constitué devrait faire un séjour en prison pour comprendre et mesurer le prix de la liberté. On m'avait arrêté pour vagabondage. Il faut dire que j'étais vêtu de hardes puantes et que je n'avais pas un sou vaillant. Je ne possédais rien, en fait. Juste de bonnes chaussures et un bâton pour marcher. Une chance. Je me suis retrouvé à côté de ce petit homme au réfectoire. Nous avons parlé. Il disait que nous avions des racines communes. Moi, le tzigane et lui, l'indien. Il en savait même plus que moi sur les fils du vent. Il disait que le mot même de tzigane venait du grec médiéval atingani, qui signifiait intouchable. Et pour le monde, c'est bien ce que nous sommes, des parias, des intouchables, comme les Dalits d'ici.
Plus j'y pense, plus je me dis que tu étais une énigme. Une porte fermée à triple tour, avec un cadenas invisible scellé sur la bouche, pour t'empêcher d'être et de dire les ronces qui te grignotaient. Quand on s'est retrouvés tous les deux, la situation a empiré. Tu t'es transformé en un jardin ravagé, sans âme qui vive, sans enfants qui jouent, sans aucun espoir. Tout ton corps n'était plus qu'une façade en trompe-l'œil participant au spectacle de la vie. Une façade vieillissant aussi mal qu'une photographie exposée à la lumière. Tu faisais, voilà tout, et je ne sais pas où tu puisais ta force. Tu étais là, un parmi plusieurs, un anonyme en quête de jeu, de main tendue et généreuse. Toi, homme brindille glissant sur une pente raide, s'accrochant, déterminé à faire partie des grands. Grâce à ces photographies, peut-être qu'en te voyant jeune, en décryptant tes expressions, les lignes de ton visage, je saisirai mieux l'homme que tu étais et celui que tu es devenu. J'étale les clichés sur la table du salon pour les étudier, les embrasser d'un seul coup d'œil. Tu n'y figures pas, mais l'un d'entre eux m'intrigue. Dessus, un homme en uniforme militaire, jamais vu auparavant.
Voilà, dans les deux cas, on est sur le... C'est un retour sur le passé, c'est pas un retour vers le futur comme d'autres, mais là c'est un retour sur le passé. Et la question aussi un peu banale, mais qui se posera tout le temps, c'est qu'on est façonné par le passé de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Et ben, tu viens de le dire dans ton écriture, c'est par ça que tu as commencé. Et Comment vous ressentez justement ce passé, comment on est façonné par ça, quoi, parce que ce qu'ont vécu nos parents. Il y a quelques jours, je lisais dans Stephenson, que beaucoup connaissent sûrement ici, dans l'incipit de son dernier livre, où il disait que quand on... toutes nos émotions, c'est faux ce qu'il dit, mais ça fait rien, c'est joli. toutes nos émotions, tous nos sentiments sont retranscrits dans notre patrimoine génétique. C'est là que c'est faux, mais c'est pas... Mais ce qui fait... Enfin, c'est en partie faux. Mais c'est ce qui fait qu'on vit bien longtemps après notre mort dans les générations qui suivront, et qu'on vit aussi dans les générations qui ont précédé leurs sentiments. Alors, voilà, comment vous voyez vos rapports avec un passé ? Toi, c'était les Indes, voilà.
En fait, il y a... L'hypothèse, hein, ça relève encore une fois de l'hypothèse. J'ai employé une étymologie qui est sans doute une fausse étymologie, mais elle me plaisait.
Je l'ai vu noter ailleurs chez
assez haut. Oui, mais ça n'empêche pas qu'elle peut être fausse.
Hein, en effet.
Voilà, c'est pas parce qu'elle est à un moment donné peut-être même consensuelle qu'elle est juste. Non, ça me plaisait simplement de faire ce parallèle entre les Dalits... intouchables donc et les Tziganes, parce que selon toute vraisemblance, hein, historiquement, les Tziganes sont partis d'Inde, du Rajasthan. D'ailleurs, on constate assez vite hein, des similitudes, ne serait-ce que dans les vêtements, mais aussi dans un certain nombre de coutumes. Et de fait, ce retour sur le passé, là, en l'occurrence, hein, le vieil homme dont parle Jag, c'est Gandhi. Et qui sait de quoi il parle hein, en matière de peuple indien. Et c'était une façon de retourner aux sources, en fait. Je pense que ce peuple Tzigane a été façonné par l'exil, en fait, c'est par l'errance. Il a quitté le Rajasthan et puis il a essaimé. On n'arrive pas à reconstituer exactement le cheminement, mais c'est un cheminement très complexe qui est passé par l'Afrique du Nord, l'Égypte, où ils ont pris d'Égyptiens, hein, vous trouvez ça dans Molière, par exemple, les Fourberies de Scapin. Ensuite, en Bohème, on les a appelés bohémiens. Et donc, j'ai imaginé cette situation pour qu'il y ait un retour aux sources, là où tout a commencé pour les Tziganes, c'est-à-dire dans cette Inde qui est pour moi un endroit parfaitement mythique et qui fait aussi partie de mon passé et d'une nostalgie, puisque j'y suis allé à des décennies d'intervalle et qu'en très peu de temps, j'ai constaté d'énormes changements. Et donc, c'était aussi une façon de me ramener à une Inde qui n'existait plus.
Le passé.
Alors, le rapport au passé.
Oui, en gros, c'est ça.
Je ne sais plus qui disait, pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Je crois que c'est une phrase qui m'habite. Et donc... Dans ce cas précis, ça, voilà, le jeu est un mélange de rencontres, de nous, d'un héritage familial. Dans mon cas, il y a un fort sentiment de devoir de mémoire et de toujours s'interroger, mais qu'est-ce que je fais de ce devoir de mémoire ? Quelle forme il peut prendre ? Donc le passé est absolument omniprésent. Et ensuite, pour le décliner de manière peut-être plus large, on parlait ce matin du rôle des récits et des mythes. Le passé est là aussi pour ça, pour indiquer à l'histoire un autre chemin, ou en tout cas pour nous permettre de choisir une voie. C'est l'expression que tu avais employée ce matin. Donc, essentiel, le passé, pour résumer en trois mots.
Oui, mais je trouve ça... Enfin, je ne savais pas cette histoire, ton histoire sur la Shoah. Et je trouve que, justement, la proximité là-dessus, dans vos deux livres, parce que... c'est pas tellement connu qu'ils aient été, les Tziganes ont été génocidés. C'est connu ?
Ah oui.
Bon,
ah oui,
parfait. Eh ben, je suis sûr que vous, oui, parce que vous avez peut-être lu, mais il n'y a pas tant que ça.
C'est connu, mais assez peu, comment dire, traité, notamment par les historiens. Il y a maintenant des historiens tziganologues, c'est-à-dire vraiment spécialistes de la question. Mais on en a parlé plus tardivement, en fait.
Mais c'est cette proximité qui m'interroge. Je repars dans les livres, je m'éloigne un peu de notre fil conducteur, mais la proximité dans les mythes, justement, entre le peuple tzigane et le peuple juif, et donc des gens qui ont été mis de côté, qu'on a méprisés, etc., et même dans les mythes chassés, ils ont été chassés tous les deux, du mur du second temple, et puis eux qui sont partis. Peu importe d'ailleurs la vérité, d'ailleurs.
Mais même dans le langage, hein, puisque en fait le peuple juif appelle les non-juifs des goy, et puis oui. les tziganes les appellent digadji. Voilà. Donc il y a vraiment deux mondes distincts, deux mondes séparés. Donc énormément de points communs aussi. Mm-hmm. Pour ça que je les ai. En fait, ils sont interchangeables dans le roman, dans une certaine mesure, puisque mon personnage va passer du camp tzigane au camp juif, en fait. Et devenir juif, ce qui est un comble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, devenir juif, pour lui, va être momentanément une voie de salut.
Ouais. Salvateur, oui. C'est vrai. Mince, je suis pas prêt. Parle un peu.
Oula, bon, alors il faut que je meuble, attention.
Sinon, on peut intervertir, si tu veux.
Vas-y, ça y est, je suis. Ah. Le lendemain de la première heure, Anton se présentait à un poste de sécurité au pied d'une passerelle de bois qui enjambait murs et barbelés. « Je suis Tzigane, » dit-il en allemand. « Je viens rejoindre ma famille. » On écrivit son nom dans un registre. On lui confisqua sa boucle d'oreille en or. La lourde chaîne qui lui venait de Johann, on lui donna en aboyant quelques coups de crosse dans les côtes, plus par habitude que par conviction. Puis, on le confia de l'autre côté de la double clôture en barbelé à un tzigane d'une trentaine d'années qui portait un brassard et qui s'empressa de le rouer de coups de pied. « Marche !» hurla-t-il en allemand. « Et ferme ta gueule !» L'homme changea d'attitude dès qu'il ne fut plus sous le regard des SS. « Excuse, dit-il en Roumanie, cette fois, et en tendant la main, j'ai été forcé. » On n'est jamais forcé de cogner, corrigea Anton en haussant les épaules. L'autre parut gêné, il se dandinait comme un enfant timide.
L'eau froide me fouette le corps. Assise en tailleur dans le bac à douche, prostrée, je m'interroge. Comment les gens réussissent-ils à cautionner l'enfer ? Par ignorance, désintérêt, peur de mourir, illusion de liberté ? Par conviction idéologique ? Non, ceux-là sont une minorité. Toi, une minorité. C'est le confort du plus grand nombre qui permet à l'horreur de s'ériger en système. Il est tellement plus confortable d'obéir plutôt que de prendre position, tellement plus confortable de ne rien dire pour ne pas se sentir concerné, de se transformer en automate pour continuer de vivre en se croyant libre. C'est rassurant, l'autorité. Et l'homme sait si bien s'accommoder des faits pour situer sa conscience du bon côté. Mais torturer, violer, tuer, torturer. Elle est là, cette vérité effrayante qui résiste à ma compréhension. Comment autant d'individus ont-ils pu, pour se sentir exister, moins misérable, survivant dans une vie faite d'incertitude et d'angoisse? Comment l'homme peut-il oublier à ce point son humanité? Comment as-tu pu l'oublier, toi, après tout ce que tu as traversé? Et fort de ce texte...
On se prépare psychologiquement à la question.
Je disais,
je vais sortir.
Je me disais justement, fort de ton texte, comment on peut accepter des violences qui sont devenues carrément un système. Et est-ce que c'est effectivement par la peur, par la haine, par le désintérêt, par, ou par tout à la fois, je ne sais pas.
Je crois que la meilleure réponse que je puisse faire, c'est le texte que tu as lu, c'est-à-dire que je ne sais pas, je suis dans un état de sidération. Ça fait drôle d'ailleurs d'entendre ce passage qui est une vraie plongée dans mes peurs les plus intimes, je pense. Donc je ne sais pas, ça m'effraie, et je ne sais pas. Je sais pas, Alain, si tu veux.
Ben, ce matin, tu avais parlé de la suspension du jugement, c'était vraiment intéressant.
Oui, merci. Mon camarade, me tend une petite perche pour m'aider à rebondir. Oui, donc ce matin, je parlais de... Est-ce qu'on parlait de l'humain et de l'inhumain ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, l'homme est en mesure de suspendre son humanité ? Et je parlais en l'occurrence de la suspension du jugement, mais qui n'est pas une invention, une de mes inventions théoriques. C'est un concept que j'emprunte à Myriam Revaud-Dallone dans un essai qui s'intitule « Ce que l'homme fait à l'homme ». Je ne me souviens plus de la suite du titre. Et en gros, dans cet essai, où elle parle évidemment d'Hannah Arendt, où elle parle de Kant également, elle parle de la suspension donc, du jugement, c'est-à-dire de ce moment où, pour être en mesure de torturer, pour être en mesure de devenir ce bourreau, l'homme met en place une suspension de son jugement. Et donc, elle définit... Des critères qui le prédisposent aussi à cette obéissance, etc. Mais j'étais troublée par la lecture, donc mon esprit est un peu moins clair que ce matin. Je te laisse rebondir, Alain.
Je vais rebondir sur une phrase de Romain Gary qui relève un peu de la provocation, comme il savait le faire. Je ne sais plus dans quel roman, peut-être que c'est dans La danse de Genghis Khan, il faudrait vérifier. Gary dit « L'homme est allemand ». Alors il faut y réfléchir à deux fois, évidemment, parce que la formule paraît étonnante. Je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'au moment de la... Peut-être dans l'éducation européenne, franchement, je ne sais plus, mais il le dit quelque part, ça c'est certain. Et donc, en fait, ce que l'on a découvert à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'est que l'extermination des juifs, des tziganes et des homosexuels, etc., n'était pas un accident de l'histoire, que c'était quelque chose qui pouvait se reproduire, que finalement l'inhumain était une partie de l'humain. Soudain, on découvrait une face de nous-mêmes avec un débordement de violence et de folie morbide sans précédent, mais qui s'est hélas qui a recommencé, pas dans les mêmes proportions, mais quand même. Donc, à un moment donné, nous avons été plus ou moins contraints d'admettre cette part-là. Pour ma part, et c'est, je pense, ce qui a, à un moment ou à un autre, été l'élément déclencheur, non pas de ce roman-là, mais de textes plus anciens, un professeur d'histoire qui partait de bonnes intentions, m'a montré, alors que j'avais 14 ans, et à vrai dire de ma classe, le film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, sans préparation ni psychologique ni préalable. Et donc, pour moi, ça a été une sorte de rupture, de fracture même dans ma vie. Tout d'un coup, j'ai découvert finalement une partie de moi-même que je ne connaissais pas. Parce que je ne l'ai pas pris comme quelque chose d'extérieur, un peu comme le personnage... dans mon roman, il y a un personnage qui, au moment où il entre à Mauthausen, ben, quelque chose en lui va se rompre de manière définitive. Alors qu'il n'a pas connu les camps, il a simplement été témoin de... Et encore, il arrive quelques jours après la libération. Pourtant, il ne reviendra jamais du camp. Dans une certaine mesure, je ne suis pas totalement revenu de cette découverte, de cette part de moi-même que je ne connaissais pas, en fait, de... Ouais, je ne vois pas quoi dire d'autre, en fait, si ce n'est que ça a été un cataclysme. On parlait de catastrophe. En ce sens-là, c'en était une pour moi en tant qu'enfant. Et ça marque très clairement et définitivement la fin de l'enfance, en fait. Je suis entré dans autre chose à ce moment-là.
Est-ce qu'on peut dire que ça t'a ouvert les yeux, peut-être ?
Ouais, c'est plus que les yeux. Ça a été un chamboulement intérieur assez oui, cataclysmique, littéralement. Une ligne de faille, en fait. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Et du coup, certaines de mes croyances se sont totalement effacées.
Ouais. Johanna, dans le texte que vient de lire Maryse, tu t'es documentée comment pour aller rechercher autant de...
Je pense que c'est une synthèse de mon sujet de thèse de l'époque. Je travaillais sur... C'était un doctorat en études théâtrales, mais je travaillais sur l'agression du spectateur dans le théâtre politique contemporain, avec l'idée de voir à quel moment l'agression du spectateur a été réellement efficace politiquement parlant. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai évidemment lu tout un tas d'ouvrages de philosophie, de sciences politiques, etc., sur la question du mal, de la violence, etc., et dont le livre dont je parlais précédemment. Donc je pense que c'est une synthèse un peu d'une réflexion qui a mûri au cours de ces années-là de recherche.
D'accord. On va juste amener quelque chose de plus gai. Ne trompe pas de bête. Être ici, présent au monde, c'est notre seul bien, disait Jacques. Hier n'existe plus. Demain est encore improbable, mais cette seconde qui passe, ce moment, cette présence, toi et moi, ici, assis sur cette pierre, à regarder le désert, de tes pupilles ouvertes comme des oisillons affamés, et ma vieille main ridée posée sur mon genou, et cette femme en sari bleu sur le balcon, là-bas, regarde, et le rire de Katia derrière nous, et cette pierre rugueuse sous nos doigts. Voilà la seule vérité. Ces instants qui passent et glissent sont nos seuls trésors. Anton, nos seuls trésors. Katia et toi. Nava et Bhaskar. Voilà bien la seule chose qui mérite d'être vécue. Il faut aimer, Anton. Sans quoi, il n'est pas de vie possible. La lettre.
Comme chaque soir, je sors la lettre de ma mère, de Paula. Vous aviez l'habitude de faire écrire aux femmes enceintes une lettre à leur futur enfant. Tu as gardé celle que ma mère m'avait adressée. Tu savais déjà, sûrement, que tu me la remettrais un jour. Mon enfant, je t'écris en espérant que ces mots te parviennent, que tu puisses les lire et sentir la profondeur de mon amour dans chacune de ces lettres que je forme, dans le moindre de ces interstices et de ces silences. Tu vas naître bientôt et on va t'éloigner de moi pour une raison que j'ignore, ou du moins qui n'en sera jamais une de valable. Ils t'expliqueront peut-être que c'était pour le bien du pays, que grandir auprès de tes parents t'aurait perverti. Je le sais aujourd'hui, s'ils te parlent de ton père et de moi, ce sera pour nous calomnier, pour justifier l'innommable et humaniser les abus de pouvoir. Mais sache-le, mon trésor, ton père est un homme doux et généreux, d'une intelligence rare. Il s'appelle Ignacio de Nevi et de là où il est, il t'aime comme un fou. Et moi aussi, je t'aime plus que tout. J'espère du plus profond de mon cœur que tu seras heureux ou heureuse. J'aimerais que ceux qui prendront soin de toi t'appellent Hugo, si tu es un garçon, et Laura, si tu es une fille. J'aimerais qu'ils t'encouragent à faire des études pour que tu vois la vie comme un océan de possibles, qu'ils t'enseignent l'importance du combat pour toujours privilégier l'humanité à la haine. Il faut prendre soin de toi, mon amour, et ne jamais renoncer. Ne doute jamais de qui tu es. Et bats-toi. Je t'aime. Ta maman, Paula.
Voilà, cette lettre est quand même très émouvante, mais elle est quand même Enfin, c'est plein d'amour. Et je voulais justement qu'on... Enfin, on voulait terminer justement sur un beau moment, l'amour. Il n'y a rien de plus beau que d'aimer, quand même. Bon. Et, non ?
Bien sûr.
Ben, dites-vous-le.
Bon, alors je commence. Vas-y. Là, je vais essayer de ne pas trop être lyrique.
Si, il faut.
Non, alors, je vous avez dû entendre le « Il faut aimer hein, », je sais d'où il vient. Ce sont les derniers mots de La vie devant soi de Romain Gary, auquel je dois beaucoup. Alors, il a été à un moment donné une sorte de mentor à distance, hein, parce qu'on n'est pas du tout de la même génération, et donc je l'ai raté, j'aurais bien aimé le rencontrer réellement. Évidemment, la seule chose qui peut réparer le mal, je crois que c'est l'amour, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Je vais entrer dans des poncifs, en fait. Pas gnangnan, mais comment dire ?
Je ne pense pas que d'aimer ou être aimé, c'est gnangnan.
Non, ça ne l'est pas, mais je risque de l'être, moi, personnellement. C'est ce que je voulais dire. Dans le roman, l'amour prend plusieurs formes. Si Anton survit, c'est à cause d'un amour d'enfance, en fait, qu'il va métamorphoser et il va créer une sorte de chimère... une sorte de femme chimérique qui est à la fois une enfant qu'il a croisée quand lui-même était enfant, une jeune mongole qui plus tard deviendra un officier de l'armée russe. Et elle va le hanter. Il n'a pas exactement compris ce qu'elle lui avait dit, mais en substance, elle lui a dit que finalement, il se reverrait, ce qui va arriver. Et ce personnage de Jadwiga, qui signifie richesse de combat, va se mêler dans son esprit au personnage... de Nadia dans Michel Strogoff, parce qu'il y a une proximité déjà phonique, Yadia, Nadia. Et cette chimère féminine constituée à la fois de Yadia et de Nadia, c'est ce qui lui permet de tenir dans les camps, parce qu'il a toujours à l'esprit cette jeune femme, et Jacques aussi, hein, accessoirement, et Katia aussi. Oui. Et donc l'amour prend plusieurs visages dans ce roman. Il commence par revoir Katia avant Yadia, et en fait il se laisse faire parce qu'à la sortie des camps il a besoin d'une sorte, c'est Orphée à l'envers là, c'est Eurydice qui vient chercher Orphée, il a besoin qu'on le sorte des enfers, et donc première figure féminine présente c'est Katia, mais qui ne reste pas puisqu'elle meurt en fait, comme annoncé dans le roman. C'est-à-dire, c'est un personnage qui connaît comme Svetan son destin et qui ne cherche pas du tout à le fuir. Au contraire, elle fonce droit dans le mur parce qu'elle sait que de toute façon, telle est sa destinée. Et c'est le moment où cette perte entraîne chez Anton la tentation du suicide, en fait. Et donc, il retourne sur les lieux à Mauthausen, à pied, pour voir ce qu'est devenu ce camp. Et pour savoir si oui ou non, il a encore envie de vivre, et la réponse est oui. Et il va recommencer quelque chose avec Yadia, qui elle aussi a souffert, puisqu'elle a vécu Stalingrad. Elle a été torturée pendant plusieurs jours par les Allemands. Et à un moment donné, elle aussi, enfin, elle a sombré, elle aussi, elle est devenue... enfin, elle se juge ainsi, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Le problème quand on est victime, c'est que le bourreau laisse une empreinte sur soi qui fait qu'on finit par se prendre soi-même pour le bourreau, alors qu'on est la victime. C'est simplement la trace de la monstruosité de l'autre sur soi qui nous a rendus monstrueux à nos propres yeux. Et donc, Nadia, Katia, Yadia, tout ça sont trois figures féminines, une sorte de chimère globale qui réunit pour moi... je ne sais pas tout ce que j'aime chez les femmes, en fait, très clairement. Alors, je ne saurais pas vous dire en quelques mots, mais c'est tout à l'heure, on parlait de l'égalité homme-femme avec des lycéens, et j'en étais venu à la conclusion qu'en fait, la seule chose qu'on pouvait vraiment espérer, c'était l'équité, parce que je ne crois pas du tout à l'égalité entre les hommes et les femmes. Je crois, au contraire, qu'il y a une profonde différence et qu'il faut la cultiver. Cette différence, et non pas vouloir l'annihiler de manière totalement artificielle. Donc oui, l'amour n'est possible que si nous sommes différents, en fait. Comment voulez-vous, ou alors ça devient une forme de narcissisme déplorable. Voilà.
Non, mais c'était bien. Tu sais, Johanna, Carmen, elle pourrait, enfin, elle est forcément surprise et anéantie un peu par la découverte de ce qu'a fait son père, mais il lui restera quand même dans la tête que tu ressembles tellement à ta mère. Et elle lui dit, il y a eu de l'amour. Ça, c'est pas son père, mais il l'a aimé, Carmen. Un peu.
Oui. Pendant que Alain parlait, je réfléchissais à ce que j'allais pouvoir dire sur l'amour pour finir sur une touche lumineuse. Parce qu'en effet, dans le roman, c'est l'amour au temps de la tragédie. Mais malgré tout, c'est la lumière qui résiste justement aux tragédies, quelles qu'elles soient. En l'occurrence, on va faire une jolie boucle avec le début de cette rencontre, avec la naissance d'un enfant, là, avec cette lettre, donc l'amour maternel de sa mère biologique. Et pour l'anecdote, le déclencheur vraiment d'écriture de ce livre, en termes très concrets, c'est ma propre maternité. Donc, je trouve l'écho avec ce que tu disais aussi au début de la rencontre. Intéressant, c'est que voilà, cet amour filial passe à travers le temps, à travers les tragédies, même si, effectivement, il y laisse quelques cendres.
Juste avant de terminer, parce que ça va faire l'heure, et je vais lire le conte parce qu'il m'a plu beaucoup, et donc je vais le lire. Dis-moi, mon garçon, demandait Jacques qui aimait les fables, qu'est-ce qui est mieux pour un mouton, le berger ou le loup ? Le berger. Et qui tond le mouton ? Le berger. Et qui le tue pour manger ? Le loup. Non, Anton, c'est encore le berger. Il est bien rare qu'un loup parvienne à tuer un mouton, parce que le berger veille, et il a de gros chiens. Mais qui donc protège le mouton quand le berger vient l'immoler ? Personne. Et pourtant, de qui a peur le mouton ? Du berger ou du loup ? Du loup. Oui, mon garçon, voilà bien tout le drame des hommes. Ils sont exactement comme les moutons. On leur fait croire à l'existence de loups, et ceux qui sont censés les protéger sont en fait ceux qui les tondent et les tuent. Bon, c'est pas très gai, mais je trouve que c'est très... Si vous avez des questions, d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vas-y.
Il faut peut-être passer le micro. Ou...
Non, il ne passera pas juste.
Ah non.
Vas-y. Il y a un micro qui arrive.
Il y a un micro qui arrive, je crois. Voilà.
Il arrive.
Oui, en fait, moi, ce qui m'a frappé dans votre livre, Alain, c'est le fait que ces gens, enfin, ces tziganes, ils ne connaissent pas les frontières. Donc, pendant des siècles, ils vont comme ça, ils se promènent, et ils se retrouvent dans différents pays sans aucune fermeture. Et puis après la guerre, c'est terminé. Il y a des frontières partout. Et je me disais que peut-être que c'est eux qui ont raison. C'est que peut-être s'il n'y avait pas de frontières, il y aurait beaucoup moins de guerres.
En Argentine, d'ailleurs, c'était pour défendre le pays. En Argentine, pour défendre le pays.
Alors après, pour être parfaitement sincère et honnête... La situation que je décris dans le roman est pas totalement juste, dans la mesure où très très tôt, les choses se sont fermées devant les tziganes. Alors j'ai argué du fait que le cirque Torvat est un cirque qui bénéficie de laissez-passer, parce que c'est un site extrêmement connu, un cirque extrêmement connu. Mais en réalité, Staline très tôt a mis en route des passeports de circulation qui faisaient que les tziganes étaient cantonnés à un seul endroit. Les tziganes ont été réduits en esclavage en Roumanie pendant plus d'un siècle. Les Allemands ont mis en place le Tigoinerbourg assez tôt, avant-guerre, qui recensait les tziganes et essayait de les cloisonner, c'est-à-dire en fait de séparer les clans de manière à ce qu'ils ne puissent plus se retrouver. On les a enfermés assez tôt dans des sortes de camps. Donc j'ai voulu montrer en fait une fermeture de monde parce qu'elle a quand même réellement eu lieu. Et à un moment donné, c'est vrai que le monde s'est encore davantage fermé devant les Tziganes. Mais en fait, il n'a jamais été totalement et réellement ouvert. Hein. Il faut être réaliste. C'est un roman. Donc ça, c'est la dimension de mon roman qui échappe à la vérité historique. Mais je crois que c'était pour accentuer, justement, montrer à quel point la clôture, quelle qu'elle soit, que ce soit des barbelés ou que ce soit les frontières, nécessairement sont des enfermements. Je ne vois pas en quoi ça pourrait être autre chose. Et quand on est français, c'est assez facile de voyager. On a un passeport qui ouvre à peu près tous les pays. Mais durant mes voyages, je vous garantis que j'ai croisé une multitude de gens dont le rêve serait de traverser les frontières. Ils n'ont pas le droit. N'ont simplement pas le droit. Ou quand ils parviennent par une multitude de subterfuges à les passer, on les renvoie gentiment chez eux. Gentiment, bien sûr, à mettre... voilà. Donc, pour rebondir avec l'actualité, j'en ai parlé tout à l'heure avec les lycéens, je le répète encore aujourd'hui, parce que c'est ce qui me frappe, parce qu'on fait pas mal de parallèles en ce moment entre mon livre et ce qui se passe en Ukraine, parce qu'une partie de mon livre se passe en Ukraine et qu'il est question de Kiev. Vous vous rendez bien compte, je ne pouvais pas anticiper la chose, donc après coup, c'est simple à faire. Mais pour en rester avec la question qui a été posée, nous avons assez bien accueilli les Ukrainiens. On a beaucoup moins bien accueilli les étudiants africains qui étaient en Ukraine. Et d'autres migrants, ma foi, on les renvoie à la mer. Hein. Voilà, donc on a une façon... C'est comme si les frontières étaient une sorte de crible, une passoire. Et donc, il y a des grains qui passent et des grains qui ne passent pas. Et donc, nous avons fabriqué des passoires et nous choisissons qui nous laissons entrer. Voilà. À un moment donné, il me semble que ça ne passera plus. Hein. Il faudra trouver autre chose, une autre solution. Mais le repli, c'est assez terrifiant. Et la pandémie en soi a été une forme de repli, alors certes forcée, mais qui n'a pas forcément aidé les gens à communiquer. Hein. Voilà. Donc, il y a quand même des mots... qu'il va falloir penser à haine. Et je pense qu'effectivement, peut-être que l'amour est une solution pour revenir à cette question.
Voilà, si vous avez d'autres questions encore après. J'espère qu'on vous a intéressé. C'était pas facile de faire un lien entre les deux livres, hein, mais ça fait deux fois qu'ils font les rencontres. C'était pas facile, c'est vrai, parce que quand même, on est dans des univers tellement différents. Mais
oui, non, en fait, hein, moi je me rends compte qu'en fait, on a énormément de points communs entre. Voilà, en fait, à la lecture, tout ne m'avait pas immédiatement frappé, donc je suis content de cet approfondissement parce que du coup, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses. Donc je vais relire ton roman.
Merci.
Et merci beaucoup.